Étude biblique aux armes, dans le cycle David, une vie avec Dieu. David a été un chef de guerre. Il a certes su faire preuve de retenue face au roi Saül, qui a plusieurs fois été à la portée de son épée. On le voit dans le premier livre de Samuel, à deux reprises. Mais il a aussi versé le sang, comme il le dit lui-même dans un de ses discours au sujet de la future construction du temple, qu'il n'assurera pas parce qu'il a été un homme de sang. Cet aspect de la vie de David pose la question de la violence au nom de Dieu. Cette question est très actuelle, surtout du fait de l'extrémisme musulman et des attentats terroristes faits au nom d'une certaine conception de l'islam. Mais prenons garde de ne pas accuser trop vite les terroristes musulmans et éventuellement la religion musulmane, même si cette dernière doit, à mon avis, quand même être interrogée au sujet de la violence. Mais dans l'histoire de l'Église et en certains lieux jusqu'à aujourd'hui, on compte des massacres, des coercitions en tout genre, du racisme. Je cite par exemple la notion de suprématie blanche. Qu'on le veuille ou non, cette violence a été commise selon une certaine notion du christianisme. Quelle position prenons-nous à cet égard? Bon, il faut quand même garder en mémoire le fait que l'histoire de David se situe sous d'autres cieux, dans une autre culture, une autre époque que les nôtres. Certains faits d'armes relevaient simplement de l'usage, même s'ils nous semblent violents aujourd'hui. Bon, ceci dit, il faudrait peut-être regarder, avant de parler de la violence dans les anciens temps et pas aujourd'hui, des horreurs qui ont été faites au XXe siècle et au XXIe. Bon, voilà, il vaut la peine d'étudier les violences de David avec soin, le contexte socio-historique, on l'a dit, les circonstances, et il faut voir quelle lecture, parfois distanciée, il faudra faire, nous, chrétiens, de ces récits. Alors tout d'abord, je ne voudrais peut-être pas appeler ça un florilège, parce que bon, c'est des textes de violence, des textes, en tout cas une collection, je ne sais pas quoi dire, des violences qui ont été faites par David, ou autour de David. Tout d'abord, première violence. Avant ça, un petit rappel. David a été d'abord chef militaire de Saül. Il a été au service du roi Saül en tant que chef militaire. On le voit dans le premier livre de Samuel, au chapitre 18, notamment, et au chapitre 19. Puis il a été chef de bande, une fois qu'il a quitté la cour de Saül, qu'il en a été chassé, ou qu'il a fui plutôt, Samuel 22. Et enfin, il a été roi d'Israël, et à ce titre, il a aussi conduit l'armée d'Israël. Il faut noter la liste impressionnante des vaillants hommes de David, 2 Samuel 23, 1 Chronique 11 et 12, des dizaines de noms et des rappels d'exploits par ailleurs passés sous silence et mis en valeur comme autant de motifs de fierté. Alors, premier élément, on le connaît tous, je pense, la victoire de David sur Goliath, 1 Samuel 17. Je vous propose de reprendre les différents récits au fil de l'eau maintenant. Alors, premier, David et Goliath. C'est vraiment au nom de Dieu que David a fait face à Goliath, verset 45, 1 Samuel 17. Il cherche à défendre l'honneur de Dieu en ce qu'il traite Goliath d'incirconcis qui ose défier les troupes du Dieu vivant. Ça résonne avec quelques éléments qu'on entend aujourd'hui dans les actes terroristes. David attribue très clairement la victoire à Dieu qui lui livre Goliath, je cite, livre, comme il le faisait pour les bêtes sauvages. Il fait preuve d'une profonde confiance en lui. David fait remarquer que les moyens de Dieu ne sont pas ceux des humains, en comparant l'épée et la lance de Goliath avec sa simple fronde. Dont acte, je ne veux pas commenter chaque événement, chaque récit, mais enfin là, on voit quand même qu'il y a ce David qui s'en prend à cet incirconcis, qui offense Dieu, c'est une manière de parler qu'on va laisser à David. Mais vous comprenez que c'est une manière qui, je pense, enfin, j'espère que tout le monde est d'accord avec moi, ne sied guère aux chrétiens. Alors, un autre épisode, qui est très sanglant, celui-là aussi, je l'ai appelé la dot sanglante de Michal, 1 Samuel 18. Alors, il y a du mariage dans l'air entre Michal, fille de Saül, et David, chef de guerre de son futur beau-père. On est encore dans la première période où David est le chef militaire de Saül. Mais Saül se méfie de David et il voit dans son futur gendre, ou futur pas gendre, un rival potentiel, et lui tente un piège, comptant sur la violence de la bataille qu'il va, dans laquelle il va conduire David, ou envoyer David, pour que David, tout simplement, y perde la vie. Saül demande à David de lui ramener, comme, de lui rapporter comme dot pour sa fille, sans la mort de 100 Philistins. Vous imaginez le tableau. Alors, le texte dit 100 prépuces d'hommes philistins. Pardon pour, le côté un peu cru de la précision, mais il s'agit bien de la preuve de la mort de ces hommes, mais aussi du fait qu'ils sont incirconcis. Et donc, ce ne sont pas des juifs. La Nouvelle Bible Seconde, d'ailleurs, explique qu'il s'agissait probablement du sexe entier. Selon une coutume, je cite la Nouvelle Bible Seconde, une coutume guerrière bien attestée dans l'Antiquité. Ambiance, hein, c'est quand même assez sanglant tout ça. Et puis alors, non seulement David va tuer les 100 Philistins demandés par son futur beau-père, mais il va en tuer 200, sans que ce massacre donne lieu à une quelconque émotion de la part de David. Voilà, pour cette dot sanglante de Mical. La libération de Keïla, 1 Samuel 23. Tout chef de bande qu'il est, maintenant, il n'est plus à la cour de Saül, il est plus chef militaire de Saül, il a été chassé par Saül, ou il a fui, mais il reste quand même, David reste quand même l'ennemi des Philistins. Or, il y a une localité du pays qui est attaquée par les Philistins, donc Keïla, et lesquels se livrent au pillage. Alors, David attaque les Philistins, remporte la victoire et sauve les habitants et leurs troupeaux. Là, on peut dire que c'est une bataille qui n'a pas grand-chose à voir. Enfin, c'est une bataille qui vient en secours. Là, David fait la guerre pour entrer en secours. Peut-être pas la même motivation que celle qu'il avait pour la dot sanglante de Mical. Alors, un autre épisode qui, lui, n'a pas été violent, dont on parlera dans une autre étude biblique, c'est la colère contre Nabal. Alors, il n'a pas été violent, il a failli devenir, hein, et ce n'est pas grâce à David qu'il n'a pas été violent. 1 Samuel 25. Voici un récit qui témoigne du caractère emporté que David pouvait avoir. David demande de quoi manger pour ses hommes à Nabal. Nabal, un homme riche, avec beaucoup de moyens, que David avait protégé autrefois. Mais Nabal rabroue David de manière humiliante. Vexé, David revient entouré de ses hommes en armes pour punir Nabal et lui faire sentir tout le tort qu'il a eu de lui refuser cette nourriture. Mais Abigail, l'épouse de Nabal, se montre fort avisée et arrête David en chemin. Elle fait face à des centaines d'hommes en armes et certainement en colère. Et elle arrive à les calmer. Parce qu'elle leur apporte à manger, hein. Pas folle, évidemment. Et David, qui se préparait à laver dans le sang l'affront de Nabal, remercie Abigail de l'avoir arrêté en si mauvais chemin. Et donc voilà, il n'y a pas de massacre en fin de compte. Bon, malheureusement, Nabal mourra après, mais pas de la main de David. Et donc là, David faisait preuve d'une violence qui allait être gratuite, on peut dire. Et peut-être deux autres récits. Alors, j'ai peine à les appeler violences gratuites. Vous allez comprendre, j'ai mis un point d'interrogation. Mais deux récits qui sont qui parlent aussi de cette vivacité, cette épée très très leste, cette main leste, je ne sais pas quoi dire, que David pouvait avoir dans certaines circonstances. Alors on n'est pas du tout dans une recherche de nourriture, l'histoire de Nabal, on est maintenant autour de la mort de Saül et de la mort d'un des fils de Saül. Ce sont deux récits que j'ai mis côte à côte parce qu'il y a le même mécanisme qui se trouve dans ces deux récits. 2 Samuel 1 et 2 Samuel 4. Venons-en tout d'abord au premier, donc 2 Samuel 1, la mort de Saül. La bataille de Gilboa a été terrible et les Philistins avaient le dessus contre l'armée de Saül. Tant et si bien que Saül, à bout de souffle, alors 1 Samuel 31, qui est l'autre récit, j'en parlerai de cette même scène, parle de tremblement violent. 2 Samuel 1 parle de vertige. Alors Saül, à bout de souffle, sait que sa fin est proche, puisqu'il est encerclé, il n'en peut plus. Peut-être qu'il était blessé, le texte ne le dit pas, mais bon, il a bout de souffle en tout cas. Et notre texte rapporte le récit d'un soldat qui raconte que Saül lui a demandé de le tuer pour éviter pour que Saül évite de tomber aux mains des Philistins, de tomber vivant aux mains des Philistins. Ce soldat le fait, tue Saül. Enfin, c'est ce qu'il dit. Mais au grand, et il raconte tout ça à David. Mais au grand malheur de ce soldat, c'est pas la satisfaction qui vient chez David, que David exprime, c'est la colère, la peine. Tu as tué le roi. Comment c'est possible d'avoir tué le roi Saül? Et cet homme demande à David, fait tuer cet homme sur le champ par un serviteur. Alors, il y a un problème avec ce récit, parce qu'il y a deux récits de la mort de Saül. Il y a le récit que je viens de vous lire, qu'un homme qui raconte à David qu'il a tué Saül, qu'il l'a achevé, en somme, avant qu'il tombe vivant aux mains des Philistins. Mais dans le chapitre 31 de 1 Samuel, puisque là nous sommes dans 2 Samuel 1, dans le dernier chapitre de 1 Samuel, ce qui forme un tout, hein, c'est en gros le même volume, le texte juif était texte en hébreu et sépare à un autre endroit, donc c'est vraiment deux textes qui se font suite. C'est assez bizarre d'ailleurs, parce que on a une vraie difficulté d'interprétation. Dans le récit de 1 Samuel 31, nous en sommes bien à Saül, qui est entouré par les Philistins, qui est complètement dépassé par la bataille, qui demande qu'on le tue, pour ne pas tomber vivant aux mains des Philistins. Il demande à son écuyer, dans 1 Samuel 31, il demande à son écuyer, et non à un soldat amalécite, de le tuer. Mais dans 1 Samuel 31, l'écuyer refuse et Saül se suicide. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Qui a raison, 1 Samuel 31 ou 2 Samuel 1? Chaque texte a sa logique, son déroulement. L'hypothèse la plus probable, comme l'avance par exemple le dictionnaire de la Bible, est que le soldat amalécite, celui qui a raconté avoir tué Saül, qui l'a raconté à David, que le soldat amalécite a menti en espérant s'attirer les faveurs de David. Mais il faut quand même dire que le texte ne le suggère absolument pas. Alors, il faut aussi noter que ces deux textes rapportent un événement extrêmement confus, une bataille très agitée, et peut-être qu'il faut rester très modeste devant notre compréhension de ces textes qui sont, il est vrai, difficiles à concilier, sauf à faire des hypothèses de lecture et ajouter des idées qui ne sont pas écrites dans les textes. C'est compliqué, mais restons-en à une compréhension modeste, et surtout restons-en, puisqu'on est sur... C'est pas mon sujet, finalement, la mort de Saül, mon sujet, c'est la colère de David. Et là, je vois que David, alors que cet homme ait dit vrai ou pas, qu'importe, finalement, mais en revanche, la colère de David a explosé, et il a tué cet homme sur le champ, ou il a fait tuer cet homme. Dans notre deuxième texte, c'est la mort de Ishbosheth, qui est un fils de Saül, qui était le successeur légitime de son père sur le trône, et sachant cela, des hommes qui n'étaient pas pour cette succession de Saül ont fait irruption dans la maison d'Ishbosheth et l'ont tué, pensant ainsi plaire à David. Eh ben, pas de chance, enfin si je puis dire. David ne voulait pas plus la mort d'Ishbosheth, fils de Saül, que la mort de Saül lui-même. Et fait sauvagement exécuter les deux hommes. Même question que pour le récit précédent. Pourquoi abattre ainsi ces hommes qui pensaient avoir bien fait? Bon, en même temps, ils avaient tué quelqu'un. Ça reste très compliqué pour moi d'évoquer ces choses-là. En tout cas, on voit que David n'hésitait pas. Peut-être pour sauvegarder sa légitimité, il aurait été coupable aux yeux de certains de vouloir la mort du roi. Donc il s'en défendait tellement fort qu'il faisait exécuter ceux qui lui apportaient les mauvaises nouvelles, en signe de colère, de peine, une peine cher payée. Alors ensuite, continuons le récit des guerres et des violences de David. La conquête de Jébus, 2 Samuel 5, 1 Chronique 11. Récit très peu détaillé, à vrai dire, et quelques versets qui racontent la prise de la ville qui allait devenir la capitale du royaume, Jérusalem. Et puis ensuite, alors, toute une série, c'est dans les notes, hein, de Samuel 8, 10, 12, 1 Chronique 14, 18, 19. J'ai appelé ça les batailles du roi. David maintenant installé sur le trône royal, livre des batailles et des batailles et des batailles à ses voisins. Les Philistins à l'ouest, déjà célèbres dans les récits, puisque Goliath était un Philistin, hein, mais aussi les Moabites à l'est et Tsoba au nord. Il est victorieux, et son David est victorieux, et son influence grandit dans la région. Puis il écrase la coalition des Ammonites et des Araméens, et encore les Ammonites, qu'il réduit aux travaux forcés. Combien de morts ces batailles ont-elles fait ? Mystère. David est chassé du trône ensuite par son fils Absalom de Samuel 18 et il livre bataille et une bataille meurtrière pour retrouver sa place sur le trône. Et puis le prix du pardon des Gabaonites, c'est presque la dernière occurrence de Samuel 21. Les Gabaonites ont été trahis. C'est un peuple proche d'Israël qui devait être protégé selon un serment lors de la conquête. La conquête du pays de Canaan. Mais Saül avait cherché à les faire disparaître. Erreur ! Dieu tient rigueur au pays de tout entier de cette trahison. David demande aux Gabaonites ce qu'ils veulent pour effacer l'offense. Ils veulent 7 hommes qui seront exécutés et exposés. Eh bien, David les leur livre. Aucune discussion n'est rapportée. Pour moi, c'est un récit qui fait froid dans le dos, quelque part. Cette absence de réaction écrite, signalée, de la part de David. Bon, évidemment, certains me diront, il a peut-être réagi et ça n'a pas été rapporté. Il y a d'autres cas où il a réagi et où ça a été rapporté. Voilà. Alors, dernière occurrence, la dernière bataille de David, toujours contre les Philistins, de Samuel 21, 1 Chronique 20. Comme la première, un géant philistin défie l'armée israélite, et comme la première, ce géant est terrassé, alors non pas par David, mais par un de ses frères. Une bataille, encore une bataille. À lire tous ces récits de bataille, de guerre, on comprend mieux un des aspects des psaumes de David. J'en viens maintenant à, je dirais, une lecture un peu distanciée de tous ces récits de bataille. Mais les deux premières remarques que je fais ne sont pas distanciées, c'est juste des remises en contexte. Cet aspect des psaumes de David, ce sont les ennemis. David parle des ennemis à toutes les pages de ses psaumes, ou presque. Il n'y avait rien de conceptuel, de spirituel, de symbolique dans les ennemis. Les ennemis, c'était des gens en chair et en os, qui étaient soit des gens de Saül, soit des Philistins, des Ammonites, des Moabites, des Araméens, des gens de Tsoba. Ils prenaient... Il y avait vraiment des bagarres, quoi, des ennemis. On l'a assez vu avec tous les textes que j'ai cités. Prenons donc garde à la lecture des psaumes, à prendre une certaine distance avec ses ennemis. Jésus nous a demandé de les aimer, nos ennemis. Deuxième remarque, la royauté de David a donné lieu à un vrai établissement du royaume d'Israël, contre vents et marées, contre toutes sortes d'ennemis internes et externes. Il faut notamment citer la conquête de Jébus, qui deviendra la grande Jérusalem. Or, le fils de David, Jésus, est entré lui aussi à Jérusalem, comme un roi en paix sur un ânon. Les Juifs qui connaissaient au moins un peu l'histoire de David s'attendaient à une nouvelle conquête, une nouvelle prise de Jérusalem par cet héritier du grand roi David. C'est ce qu'on appelle l'attente messianique, qui ne pouvait concevoir la fin du Messie sur une croix romaine de mise à mort. Or Jésus faisait bien suite à David, mais en franchissant une étape supplémentaire. Le royaume n'était pas seulement celui d'Israël, mais celui de Dieu. La bataille n'était pas contre les mauvais Philistins, mais contre le mal en nous tous. Le règne visé n'était pas sur un pays géographique, mais pour un peuple dans toute la terre. Venons-en à quelque chose de plus proche de notre foi. Une manière de lire les textes de violence de David, il faut garder en mémoire l'exemple de Jésus tout d'abord. Pas de violence, sinon plutôt celle qu'il a subie. On ne peut décemment pas prétexter sa colère contre les marchands du temple, Matthieu 21, Marc 11, Luc 19, Jean 2, ou son exclamation de lassitude énervée, vous savez, quand il disait à ses disciples « Jusqu'à quand je vais vous supporter ?» C'est rapporté dans les trois synoptiques également. Pour justifier des exactions, on peut pas évoquer cette colère de Jésus contre les marchands ou cette exclamation énervée, pour justifier des exactions dont se sont rendus coupables des chrétiens ou prétendus tels, ou prétendument pour Dieu. Il faut citer aussi l'extraordinaire capacité que Jésus a eue sur la croix lorsqu'il a réclamé le pardon du Père sur ses bourreaux. Luc 23. L'enseignement de Jésus aussi, pas seulement l'exemple, mais l'enseignement de Jésus caractérisé par la paix. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Béatitude. Au sujet de la violence, toujours dans le sermon sur la montagne, Jésus a marqué sa différence. Matthieu 5, Alors, il dit ne pas rendre le mal pour le mal. Hein. Il cite la loi, ce qu'on appelle la loi du talion, et pour dent pour dent. Il dit, mais non, il faut aller plus loin. Et puis, on vous a dit d'aimer vos ennemis. Eh ben non, il faut... On vous a dit, pardon, d'aimer vos amis et de haïr vos ennemis. Eh ben non, il faut aussi aimer les ennemis. C'est des enseignements qui aujourd'hui encore, portent... Enfin, devraient porter... Allez, je vais être trop au camp. Beaucoup plus de fruits qu'ils n'en portent. Ceci dit, c'est très vite dit, hein, ce que je viens de dire là, mais c'est très long à réussir. On peut peut-être citer l'épée et non la paix que Jésus vient apporter dans le monde, Matthieu 10, 34, hein, je suis venu apporter non pas la paix mais l'épée, etc. Mais à bien lire cette déclaration, s'agit-il d'une attitude belliqueuse des disciples de Jésus ou de réaction contre eux? Si ses disciples suivent bien leur maître, et son exemple, c'est cette dernière hypothèse qu'il faut retenir. Donc quand Jésus dit « je suis venu apporter l'épée », c'est l'épée dont vont pâtir les chrétiens, et non pas celle qu'ils vont manier. Ceci dit, Jésus, à un moment donné, utilise l'image d'un roi partant en guerre, hein, dans une de ses paraboles. Alors, on peut dire qu'il y avait un contexte de guerre, enfin, en tout cas, ouais, oui, d'ailleurs, il y avait l'occupation romaine, hein, c'est pas besoin de chercher très loin. Alors, Jésus ne va, en utilisant ce contexte comme une image, ben, ne s'élève pas contre lui. C'est, néanmoins, peut-être c'est l'exception qui confirme la règle, l'enseignement de Jésus est caractérisé non pas par un attrait de la guerre ou un encouragement à la guerre, mais plutôt... À l'inverse, à la paix et à l'amour des ennemis. Je vais vous lire maintenant quelques citations un peu longues d'un livre qui s'appelle « Évangile, violence et paix » et qui va poser ce que j'appelle une dialectique de la violence, c'est-à-dire deux choses qui se mettent en tension l'une l'autre. Lisons ensemble. Donc, « Évangile, violence et paix », oui, j'ai pas dit l'auteur, Robert Bosque. Pages 31 et 35. Les béatitudes évangéliques, bienheureux les doux, bienheureux les pacifiques, sont-elles à l'origine de cette morale d'esclave, morale de soumission et de peur des interdits, que Nietzsche reproche aux chrétiens d'avoir communiqué comme une maladie au monde occidental? Ou bien, à l'inverse, n'est-il pas exact de reconnaître, avec Marx, que la morale évangélique est restée sans prise sur la réalité, qu'elle n'a pas davantage transformé les relations entre les hommes que n'importe quelle autre philosophie idéaliste antérieure ou postérieure au christianisme? L'évangile n'a-t-il pas été utilisé par les classes dominantes comme un opium du peuple, c'est-à-dire comme une idéologie au sens précis que Marx donnait à ce mot pour justifier, consolider et voiler l'exploitation des pauvres par les puissants? Ceci, dira-t-on, est le point de vue d'adversaires, d'hommes qui sont restés extérieurs au christianisme. Soit, mais il y a plus grave. Ne voyons-nous pas l'évangile de tout temps tiré à U et à Dia par des chrétiens également sincères? Au nom des pauvres opprimés, au nom de leur nation asservie, les uns justifient le recours aux armes. La lutte pour l'indépendance et la lutte des classes sont intégrées par eux, très logiquement, et avec toutes ses conséquences, jusqu'à la violence armée, dans une théologie de la libération. D'autres refusent une telle interprétation comme contraire à la lettre et à l'esprit de l'Évangile. Seule la résistance non violente serait fidèle à la bonne nouvelle de la paix, de la réconciliation, du pardon. Qui a raison? Alors, je fais une petite parenthèse personnelle. J'ouvre là une question à laquelle j'ai bien de la peine à répondre. Peut-être que c'est pas une réponse, c'est une réponse qui prend du temps, qui mérite de la réflexion. Mais au moins, elle a le mérite, cette question, de poser ce que j'appelais tout à l'heure une dialectique. C'est-à-dire, on a soit une position, soit l'autre, et les deux sont en tension, et les deux doivent être entendus. Alors, je poursuis la lecture à la page 35. Comment vouloir la justice pour les humbles? Et simultanément accepter les compromis, sacrifier une partie de mes intérêts pour me réconcilier avec l'adversaire? C'est le paradoxe chrétien que saint Thomas d'Aquin a excellemment mis en lumière dans le chapitre de la Somme théologique où il traite de la guerre. La seule justification du recours à la guerre, c'est l'amour pour le prochain opprimé. Le paradoxe est peut-être concrètement soutenable à l'intérieur d'une conscience, au niveau d'un individu, Que signifie-t-il au niveau d'un groupe, d'une société politique? Faut-il torturer les textes, et surtout se torturer l'esprit, pour dire qu'aujourd'hui la lutte des classes, des pauvres contre les oppresseurs, est la forme concrète de l'amour évangélique? Ou encore qu'il est impossible de célébrer l'Eucharistie, bon, alors on découvre au passage l'auteur est catholique, sacrifice et signe de réconciliation à deux chrétiens qui sont situés à deux camps opposés de la lutte sociale? Ces manières de faire et de parler ne tombent-elles pas sous le coup des accusations de Jésus contre les pharisiens qui se classaient eux-mêmes dans le camp des justes et refusaient le contact avec les publicains? Mais inversement, faut-il à ce point méconnaître l'esprit de l'Évangile pour se contenter de faire des sourires aux exploités en leur disant « Allez en paix, chauffez-vous, rassasiez-vous » sans leur donner ce dont leur corps a besoin? À quoi cela sert-il? Allusion à Jacques 2,16. Alors, beaucoup de questions, hein, en guise de conclusion, c'est quand même un peu gonflé de ma part de vous assaillir de questions comme celle-ci. Mais je crois que les textes de David nous les posent, ces questions. C'est en tout cas comme ça que je vous propose de les lire, en se laissant interroger. Il y a une partie violence en moi qui hurle contre les injustices, qui a envie, le poing qui se serre, et puis l'autre qui dit « Non, mais Jésus n'a pas montré cet exemple-là ». Mais on est sans arrêt dans cette lutte intérieure, dans cette dialectique de la violence. Le jeune David, c'est un conclure quand même. Le jeune David affirmait avec sa fronde que c'était Dieu qui combattait et non lui. Dans le récit de David et Goliath, c'est dit très clairement. Je ne crois pas qu'il ait conservé ensuite cette manière de voir, en tout cas pas tout le temps. Comparons les colères de David et celles de Jésus. Comparons les violences gratuites de David et le pardon gratuit de Jésus. Comparons l'énergie de David contre ses ennemis et l'amour montré par Jésus pour ses ennemis. Comparons le royaume de David et le règne de Jésus. Et n'oublions pas que nous sommes disciples, non pas de David, mais de Jésus. Pour finir, une autre citation, cette fois de Gandhi, sur le sermon sur la montagne. Je tire cette citation d'un livre qui s'appelle « L'évangile de la non-violence » de Jean-Marie Muller. Ce texte nécessiterait plus d'un commentaire et d'un ajustement. Hein. Je ne le cite pas comme l'Évangile, mais laissons-nous toucher par ce texte, laissons-nous mettre en vibration par ce texte. Je crois qu'il peut soulever quelques émotions chez nous. Je cite donc, « J'ai fait connaissance avec la Bible il y a environ 45 ans. Je ne pouvais pas trouver grand intérêt à l'Ancien Testament, mais quand j'arrivais au Nouveau Testament et au Sermon sur la montagne, je commençais à comprendre l'enseignement du Christ et le message du Sermon sur la montagne fit écho à quelque chose que j'avais appris dans mon enfance. Cet enseignement, c'était de ne pas se venger, de ne pas rendre le mal pour le mal. De tout ce que je lisais, ce qui me resta pour toujours, c'est que Jésus vint pour établir une loi nouvelle. Sans doute, il a dit n'être pas venu pour apporter une autre loi, mais pour greffer quelque chose sur la vieille loi de Moïse. Eh bien oui, il la changea de façon telle qu'elle devint une nouvelle loi. Non plus œil pour œil et dent pour dent, mais être prêt à recevoir deux coups si l'on vous en donne un et faire 2 kilomètres si l'on vous demande d'en faire un. Je me disais, ce n'est sûrement pas le christianisme, car toute l'image que je m'en faisais alors, c'était la liberté d'avoir une bouteille de whisky dans une main et le bistec dans l'autre. Le sermon sur la montagne me prouva mon erreur. À mesure qu'augmenta mon contact avec les vrais chrétiens, c'est-à-dire avec des hommes vivants pour Dieu, je vis que le sermon sur la montagne était tout le christianisme pour celui qui veut vivre une vie chrétienne. C'est le sermon qui m'a fait aimer Jésus. En lisant toute l'histoire de cette vie, sous ce jour-là, il me semble que le christianisme reste encore à réaliser. En effet, bien que nous chantions « Gloire à Dieu dans les cieux et paix sur la terre », il n'y a aujourd'hui ni gloire à Dieu ni paix sur la terre. Aussi longtemps que cela reste une fin encore inassouvie, et tant que nous n'aurons pas déraciné la violence de notre civilisation, le Christ n'est pas encore né. Quand la paix réelle sera établie, nous n'aurons plus besoin de démonstration. Cela resplendira dans nos vies, non seulement individuelles, mais collectives. Fin de citation. Vous avez certainement sursauté en entendant quelques petites choses de cet homme, Gandhi, mais il méritait d'être écouté, je pense. Et c'est ainsi que je vous propose de conclure cette étude en rappelant une petite phrase que j'ai dite il y a quelques minutes. N'oublions pas que même si David a beaucoup de choses à nous apprendre, nous sommes disciples de Jésus et non pas de David. Je vous remercie.